Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International en ce début de semaine pour évoquer notamment les Bleus.
On a fait les efforts jusqu'au bout, on peut toujours mieux faire, bien évidemment. Ça fait bien longtemps qu'on n'était pas venu gagner ici, il faut apprécier. Hein, on reprend la compétition, on a une victoire, voilà. Donc bravo à tous.
Vous vous applaudissez pas apparemment. L'équipe de France victorieuse en Suède, mais sans la manière, fera-t-elle mieux demain soir au Stade de France face au vice-champion du monde, la Croatie finaliste en 2018. Loin de son niveau habituel, Antoine Griezmann inquiète, mais la défense emmenée par Hugo Lloris rassure. Gros plan sur les Bleus entre Suédois et Croates en Ligue des Nations avec vous messieurs. Bonjour Nabil Djellit.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Patrick Juillard est là aussi, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis Naïm Moniol.
Salut Annie, salut à tous.
Trio de choc comme vous pouvez l'imaginer pour cette émission. Nous évoquerons aussi quelques semaines après sa finale perdue en Ligue des Champions, le PSG qui prépare sa nouvelle saison. Mais Leonardo, le directeur sportif, et sa star Kylian Mbappé ne sont pas vraiment d'accord. Le trophée perdu des Pharaons, la fédération égyptienne a perdu la trace de coupe remportée par son équipe nationale. La CAF se dit prête à aider les Égyptiens pour retrouver ce souvenir inestimable, écrit la Confédération africaine de football. David Finzel est là fidèlement derrière la vitre, il m'aide à préparer l'émission. Laurent Salerno est là aux manettes. Radio Foot, c'est parti.
Avec Kylian Mbappé qui va aller défier Lustig en 1 contre 1. Kylian Mbappé, le premier passement de jambe, il cherchait Petit pour le contre est favorable pour Kylian Mbappé. L'éclair de génie signé Kylian Mbappé qui vient débloquer une situation bien délicate jusque là pour l'équipe de France. Il fallait un éclair. Très bien, il est venu de Kylian Mbappé.
Une victoire des Bleus en terre suédoise, un exploit pour l'équipe de France qui ces dernières années se heurtait à ses joueurs en maillot bleu et or. Les Français n'avaient pas gagné une seule des 5 dernières rencontres en Suède, alors que les adversaires ont été sur une plutôt bonne dynamique de 8 matchs sans défaite. Alors, la manière n'y était pas, certes, on l'a déjà dit, mais Nabil, vous avez tweeté, en parlant de foot, quand vous en parlez encore, Purgason,
ouais,
c'est ça ?
Purgason ou Purgason,
ouais. Ouais.
Oui, parce que...
Alors, vous avez lié le mot purge à Son, qui est le nom
De nos amis scandinaves, ça veut dire fils d'eux. Ouais. C'est Xavier Barret qui m'expliquait ça.
Oui, ben on en avait beaucoup parlé au moment de l'Islande, vous vous souvenez.
Exactement. Bah, non, oui, c'était un match que je trouvais plutôt insipide en termes de spectacle. Mais rien de nouveau avec l'équipe de France, parce que c'est une équipe finalement qui ne produit pas tant de jeux que ça, qui est pragmatique, qui arrive à cadenasser ses adversaires et à jouer sur la qualité individuelle de ses attaquants, notamment Kylian Mbappé, même quand il ne réussit pas un grand match, il arrive quand même à provoquer et à faire la différence. Après, on partait sur un nouveau système de jeu qui devait mettre en valeur des joueurs de couloir, mais on n'a pas forcément des joueurs de couloir exceptionnels. Mmh. Si, enfin, il y en a un qui est exceptionnel, mais il est sur le banc. Il est devant Marcelo au Real Madrid, mais en équipe de France, Digne est devant lui. Donc, bon, je parle de Ferland Mendy, mais c'est vrai que je dois vous avouer que je me suis ennuyé.
Vous aussi, vous êtes ennuyé, Naïm Moniol ?
Bah forcément, oui, parce que c'était pas un grand match. Et bon, on m'a dit depuis le match, oui, mais tu sais, c'est un état de forme inégal.
Voilà, la condition physique, oui, la condition athlétique.
Oui, enfin bon, moi j'ai regardé aussi l'Espagne, j'ai vu la Belgique, j'ai vu le Portugal. Excusez-moi, eux aussi, ils sont en match de reprise et eux aussi, ils avaient des états de forme inégaux et ils ont très bien, enfin ils ont pas très bien joué, mais en tout cas ils ont mieux joué et ils ont produit du jeu, et ils ont marqué des buts. Donc comme quoi, c'est pas lié. Moi j'ai regardé, alors le système, je vais pas le condamner tout de suite parce qu'il faut le revoir et avec les titulaires.
Vous êtes pas anti-système,
évidemment. Non, je suis pas anti-système, c'est vrai. Mais enfin, c'était un petit match de l'équipe de France et je leur trouve pas beaucoup de circonstances atténuantes.
Bon, petit match, mais gagner à l'extérieur en Suède, ouais. Patrick, allez réchauffer un peu les...
Non,
les...
non c'est pas, les vous n'allez pas le convaincre.
Je suis désolé, je suis aussi froid que le public du stade, puisque c'était vide. Non, il n'y a rien à dire de mieux que ce qu'ont dit mes confrères. Je suis totalement sur la même ligne, c'est un match décevant. L'équipe de France, elle savait qu'elle allait jouer contre un bloc bas, la Suède. Là, on sait comment joue la Suède, surtout depuis la retraite de Zlatan Ibrahimovic. Elle a joué comme d'habitude, c'est-à-dire une sorte de glue défensive assez dure à pénétrer, assez rugueuse, qui n'hésite pas à mettre des coups. Et la France n'a pas trouvé les moyens de le contourner. Mmh. Heureusement que Mbappé a eu une inspiration et un petit peu de chance aussi, ouais, puisque c'est avec des comptes favorables. Mais ça, on ne peut pas lui enlever. Mais sinon, quel ennui, quel néant footballistique.
Antoine Grenier, vous étiez en Suède avec les Bleus. Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Alors là, en ce moment exact, Antoine Grenier est toujours derrière les Bleus, mais là, au stade, du côté du Stade de France, parce que il y avait les conférences d'avant-match sur lesquelles
on le voit
reviendra.
Plus qu'Antoine Griezmann en tout cas.
Oui. Antoine Grenier, est-ce que vous aussi vous vous êtes embêté dans les tribunes du stade de Molna?
Solna, dans le nord de Stockholm. C'est l'équivalent de Saint-Denis pour Stockholm. Non, on s'est ennuyé. Bah, on s'est ennuyé un peu comme tout le monde. On n'a pas assisté. Naïm, Patrick et Nabil l'ont dit. On n'a vraiment pas assisté au meilleur match de l'équipe de France de ces dernières années, loin de là. Après, Patrick l'a un peu évoqué. Naïm ne trouve pas de circonstances atténuantes au bleu. Moi, je leur en trouve 11. Il y avait 11 Suédois en face qui étaient clairement là pour jouer le 0-0, qui auraient été très contents de s'en sortir sans prendre de but et sans perdre contre l'équipe de France. Donc, il faut être forcément deux équipes qui ont envie de jouer pour faire un beau match. Les Bleus avaient, dans leur système tactique, étaient forcément un peu plus portés vers l'offensive que les Suédois, qui étaient organisés comme on les connaît. Voilà, c'était l'iceberg devant l'équipe de France. Donc, on s'est pas forcément ennuyé, parce que c'était assez intéressant d'assister à un match à huis clos et d'entendre les joueurs se parler, de voir leurs réactions de façon un petit peu plus précise que quand il y a du public. Mais clairement, on n'a pas été enthousiasmé.
Justement, Antoine, pour rebondir justement au moins sur ça, vous avez été surpris par Hugo Lloris. Hugo Lloris, le taiseux finalement, plutôt bavard pendant un match.
Mais complètement bavard. Il n'arrête pas de parler. Je m'en étais jamais rendu compte. Ça fait pourtant quelques années que je suis les Bleus, mais dans des stades pleins, dans un stade vide. Et on comprend à ce moment-là pourquoi Hugo Lloris a été désigné capitaine par Didier Deschamps. Alors, il y a son expérience, évidemment, qui joue. Il est en équipe de France et il est professionnel depuis maintenant très très longtemps. Mais il a passé son match en Suède à parler aux joueurs lorsqu'il y avait un duel dans la surface, un duel aérien, de leur crier « Gagnez, gagnez, gagnez !» ou alors de replacer sa défense, de replacer ses latéraux. Et c'est là qu'on voit qu'un gardien a une vue d'ensemble du match que les autres joueurs n'ont pas. Et Hugo Lloris a été extrêmement précieux, notamment pour Dayot Upamecano. Il lui a énormément parlé, il l'a énormément prévenu quand un joueur suédois partait dans son dos ou que ça essayait de combiner. Il a souvent un coup d'avance dans ce qu'il annonce, Hugo Lloris. Et pour ça, ce match-là était très intéressant. Et le huis clos, pour ça, est assez intéressant.
Ah bah voilà, finalement c'était super passionnant ce match, vu par Hugo Lloris.
Il y a toujours des enseignements différents quand on assiste à un match depuis les tribunes ou depuis son canapé devant sa télévision.
Forcément,
et là encore plus évidemment, puisque le son des joueurs est beaucoup plus audible depuis le stade que quand il nous arrive de loin.
Alors Hugo Lloris, homme du match, parce qu'en plus dans cette défense, non pas à 4 mais à 3, elle a tenu, aucun but encaissé. Un record pour Hugo Lloris, battu. Il a battu celui de Fabien Barthez, Fabien Barthez, en 87 rencontres, n'avait encaissé aucun but sur 51 matchs. Et là, Lloris, 52 matchs, mais sur 115 buts. Vous avez aussi trouvé que cette défense, alors Antoine nous parlait de Upamecano, on sait que c'était ses premiers pas, mais il y avait aussi Varane, bien sûr, et Kimpembe. C'est quelque chose de fiable qui tient.
Oui, de toute façon, c'est la patte des champs, c'est quelque chose qui marche. C'est une équipe de France qui encaisse de toute façon peu de buts, grâce, vous avez raison de le rappeler, à Hugo Lloris, mais aussi le système de jeu qui favorise plutôt un bloc défensif avec des joueurs du milieu comme N'Golo Kanté qui sont capables de venir protéger, qui a été énorme, il a été aux quatre coins du terrain, il a un volume exceptionnel. Ensuite, vous avez les profils également des latéraux qui sont plutôt, moi pour moi, plus des valeurs ajoutées défensives qu'offensives.
Des valeurs ajoutées nulles, en fait, pour moi.
Non, mais je veux dire, dans l'ensemble, c'est des joueurs plutôt sérieux, appliqués. Dubois, il a pas de qualité forte, mais il est jamais mauvais. Vous avez un minimum garanti. Il fait pas de.
Il est jamais mauvais, mais il a pas le niveau international. Mais
en Ligue des Champions,
même à Lyon, il a pas le niveau de l'équipe.
Enfin, sur le match, on l'a pas vu se faire ruiner là.
Il est moyen, quoi.
Oui.
Il est moyen.
Mais bon, ça suffit parce qu'en face, c'est pas le Brésil, quoi.
Oui, mais ça suffira pas toujours.
Mais en face, t'as pas des joueurs qui foutent le bordel dans les 30 derniers mètres, qui mettent en difficulté.
Ça suffira pas toujours.
C'est dans le prolongement de ce que tu dis. Il y a une défense solide parce qu'il y a pas un adversaire très costaud et on arrive quand même à concéder au moins deux occasions assez franches face à une équipe qui a produit très peu de jeux.
Tu sais, l'Allemagne, hier, ils ont concédé 20 tirs. C'est l'Allemagne.
Ouais, mais je vais te dire un truc. Oui, sauf que je vais te dire, la Suisse a beaucoup mieux joué que la Suède. J'ai regardé le match. Ouais. Très, très bonne équipe de Suisse, en tout cas en deuxième mi-temps.
20 tirs, l'Allemagne, quand même.
En tout, oui, bon, la défense allemande, on peut en parler aussi, mais sur le match d'hier, vous avez finalement très peu, vous avez très peu de titulaires parce que les deux latéraux ne sont pas des titulaires. Forcément, Dayo Upamecano
oui,
a beaucoup de mal à gagner sa place.
Oui, parce qu'il manquait des cadres. Hein. Il manquait non seulement Pogba, mais effectivement Pavard.
Je ne suis pas sûr non plus que dans l'esprit de Deschamps, Kimpembe soit le titulaire de l'équipe de France. En tout cas, à l'instant T, il ne l'est pas. Donc, on peut s'accrocher à ça. Maintenant, il faut être honnête, c'est sans les latéraux titulaires et sans la charnière titulaire, on ne peut pas se faire vraiment une idée de ce que sera la défense de l'équipe de France. Mmh. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'on sait que dans ce système, il faut des latéraux qui ont des qualités offensives. Ceux qu'on a vu contre la Suède ne les ont pas. Voilà. Il faut un milieu de terrain, au moins, qui court aux côtés d'N'Golo Kanté. Parce qu'N'Golo Kanté, malgré tout son volume de jeu, est un 8. C'est pas un 6. Rabiot, sans avoir été mauvais, je l'ai pas trouvé exceptionnel. C'est pas là qu'il a marqué des points. Donc voilà, je demande à revoir les joueurs et le système.
Pas de quartier. Moi, Patrick, j'aurais voulu vous poser une autre question.
Dites-moi.
on sait que Hugo Lloris, qui a été homme du match, il revenait quand même à Solna. Donc, dans un stade où, il avait un très mauvais souvenir.
Les pires de ces boulettes,
on va dire. On se souvient, il était sorti de la cage, il avait encaissé un but. Est-ce que, pour vous, ces prestations et ce record qu'il vient d'établir effacent un peu tout ça?
Ah, pour moi,
il est là depuis 2008, hein, ouais, 115 matchs.
Pour moi, sa Coupe du Monde avait déjà effacé ce but.
Même si en finale aussi,
oui,
il y a pareil,
mais en finale, c'est une bourde sans aucune conséquence. Le score est acquis quand ça se produit. Et sur le reste de la Coupe du Monde, il est quand même déterminant. Il nous sauve la mise à plusieurs reprises.
Comme hier soir.
Il fait des arrêts, des parades décisives. Et on peut pas dire qu'il ait sauvé l'équipe de France contre la Suède, puisque il est possible que la France ensuite aurait pu peut-être remporter le match, et notamment si Griezmann, on va en parler, avait marqué
évidemment
son penalty. Mm-hmm. Mais moi, pour moi, Hugo Lloris, il est déjà au panthéon des grands gardiens de l'équipe de France. Moi, alors en plus cette boulette contre la Suède, effectivement, c'est une erreur, mais le but qu'il prend. Combien de joueurs auraient mis un lob de 60 mètres? Je veux dire, 99 fois sur 100, la balle aurait fini à 10 mètres à côté des cages. Donc,
France
on
avait
peut
perdu,
pas tant
en
lui
cas,
en vouloir que ça. Quoi.
On avait aidé la Suède d'ailleurs à aller à la Coupe du Monde.
Oui.
Antoine Grenier, Kylian Mbappé en sauveur. Hein, il a inscrit son 14e but sous le maillot bleu. Il a pris un coup à la cheville. Est-ce qu'il sera préservé pour le match de demain soir? Didier Deschamps a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il a donné des nouvelles de notre kiki national?
Ben, vous le savez, Annie, la cheville droite de Kylian Mbappé, c'est un sujet sensible. C'est presque un secret d'État de savoir comment elle va. Il est sorti, il boitait, hein, il grimaçait un peu, Kylian Mbappé, au moment de son remplacement contre la Suède. Didier Deschamps a évidemment été questionné sur Kylian Mbappé pour deux raisons. Déjà parce que le Paris Saint-Germain joue deux jours après le match France-Croatie, donc c'est très court. Et s'il venait, Didier Deschamps, à aligner Kylian Mbappé ou Presnel Kimpembe, ça les empêcherait de jouer 90 minutes leur match de championnat juste derrière. Et Didier Deschamps, il restait plutôt évasif en disant que voilà, Kylian Mbappé, il était là. S'il est parmi les meilleurs joueurs à aligner, il le ferait. Après, il a quand même laissé la porte ouverte. Il a annoncé qu'il y aurait beaucoup de changements. Et on peut imaginer, sans trop de chances de se tromper, que Kylian Mbappé sera concerné et risque de débuter sur le banc ce match, voire à ne pas rentrer du tout.
Naïm Moniol, ouais. Antoine fait allusion à ce match que doit disputer le Paris Saint-Germain, oui. Donc deux jours après. On a lu aussi dans la presse que Deschamps avait discuté aussi avec Flick, eux qui ont disputé la finale. Il a quand même convoqué Hernandez et Pavard.
Bon, enfin, Hernandez, il joue plus avec Bayern. Donc,
voilà, Hernandez surtout. Est-ce que, je crois que Pavard, en fait, a il est convoqué ?
Non.
Il n'est pas dans
le
Merci Antoine,
il
n'est pas
dans le groupe. Qui sont mis sur le côté.
Justement, oui, parce qu'ils étaient. Mais en tout cas, pour ce qui est de Hernandez, il serait plus ou moins entendu pour lui faire jouer qu'un des deux matchs. Est-ce qu'il y a beaucoup comme ça de négociations entre les sélectionneurs et les entraîneurs ?
Évidemment, et puis même
en permanence.
Oui, à chaque rassemblement, il y a évidemment des discussions. Et pendant dans les saisons dites classiques, donc sans tout ce qu'on connaît actuellement, vous avez parfois même des entraîneurs qui demandent de ne pas le prendre, de ne pas le sélectionner. Alors quand c'est comme ça, on trouve une petite douleur à la cuisse.
Voilà.
C'est exactement ça, un forfait diplomatique. On lui trouve une douleur à la cheville, au mollet, aux adducteurs. Et puis, il reste.
Ça dépend des
rapports. Bien sûr, évidemment. Et puis, il faut aussi voir quelque chose, c'est que le match intervient, la fenêtre internationale intervient à un moment donné où quatre championnats.
Cette année, tout est étrange.
La Ligue des Champions s'est terminée le 23. Il y a quatre championnats dans les grands championnats qui n'ont pas repris. La Ligue 1, elle, a déjà repris alors qu'elle a arrêté pendant 6 mois. Donc, les états de préparation individuelle sont tellement disparates qu'on est obligé un petit peu de faire du cas par cas. Donc oui, les entraîneurs s'arrangent avec le sélectionneur, que ce soit en France ou ailleurs, ça pose aucun
souci. Ça dépend du rapport de force quand même. Si vous êtes Jurgen Klopp et que vous appelez le sélectionneur de Guinée et que vous voulez pas que Naby Keïta joue un match dans un calendrier infernal, il y a de fortes chances que si vous êtes Jurgen Klopp, que vous êtes Jurgen Klopp et que vous appelez Didier Deschamps, il y a beaucoup moins de chances. C'est aussi parfois aussi le poids de la sélection et voilà. Ça ne vous empêche pas d'avoir du bon sens. Mais Didier Deschamps, on ne lui impose rien. À d'autres, on impose des choses.
Antoine Grenier, celui qui inquiète dans cette équipe de France, et on va s'arrêter un petit peu plus longtemps, c'est évidemment Antoine Griezmann, très attendu en bleu, où il est évidemment apprécié et motivé par son sélectionneur, mais quand même le numéro 7 de l'équipe de France ressemblait un peu plus trop peut-être au joueur qu'il est au Barça ces derniers temps. Est-ce que Didier Deschamps, on l'a entendu après le match, défendre Antoine Griezmann, mais vous, Antoine Grenier, est-ce que vous défendez Antoine Griezmann aussi?
C'est vrai que il traverse pas du tout la meilleure passe de sa carrière de joueur, Antoine Griezmann. Vous le disiez, sa saison avec le Barça, elle est loin de ses standards habituels. Là, en équipe de France, ce penalty raté, c'était un peu l'illustration de sa soirée à Solna, c'est-à-dire que il a pas trouvé le rythme, il a pas trouvé ses attaquants, il a eu du mal à exister dans ce match et à avoir l'importance que doit avoir un joueur qui est aligné en numéro 10, parce que c'était ça sa position contre la Suède. Après, visiblement, et non seulement pour service rendu mais aussi certainement pour le relancer, Didier Deschamps passe son temps, et il l'a encore fait aujourd'hui, à dire que il a toute confiance dans Antoine Griezmann, que ce soit d'ailleurs pour tirer les pénaltys ou pour être titulaire en équipe de France. Et il a dit que Griezmann était capable de rejouer demain, donc vraisemblablement on devrait revoir Antoine Griezmann sur la feuille de match. Après, c'est sûr que le rendement d'Antoine Griezmann était largement insuffisant et a largement contribué aussi à la petite performance des Bleus en Suède.
Oui, c'est un avis que vous partagez apparemment, Patrick Juillard.
Tout à fait. Alors effectivement, dans ce système, Griezmann était derrière deux attaquants, donc comme un meneur de jeu, mais il n'a pas vraiment toute la panoplie du meneur de jeu. C'est
un peu quand même.
Pas tout à fait. C'est pas Toni Kroos ou Modric, un joueur comme ça. C'est plus un joueur attiré par le but. Et d'un autre côté, il a aussi cette culture défensive du repli qu'il a acquise auprès de Diego Simeone, qui en fait un joueur un petit peu atypique. Et lorsque son physique et son mental sont au top, il peut donner des très grandes choses, parce qu'il va se multiplier aux quatre coins du terrain et faire toujours des bons choix. Et quand il est moins bien, il est plus transparent. Et là, je trouve en plus qu'au-delà de tout ce qu'a dit Antoine, qui est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il a été insuffisant, tout simplement, je trouve que ce qui dégage dans son expression corporelle, on n'a pas l'impression qu'il s'amuse en fait.
Il est
alors,
pas heureux.
Est-ce que ce match qui intervient pour lui au milieu de la période de vacances du FC Barcelone, puisque
puis tout ce qui s'est passé au FC Barcelone, voilà, auquel il ne peut être indifférent.
Est-ce que ça, alors on aurait pu penser que ça lui servirait de ballon d'oxygène, d'échappatoire, mais là on a l'impression qu'il était encore englué dans tout ce contexte un peu lourd, et ça s'est vu.
Ça reflète, parce que je me souviens en Albanie justement il avait marqué.
C'est un système qui est conçu pour lui. Parce que Griezmann, même si il joue en pointe, il joue quand il a des appuis. Enfin, il a un gabarit de 10.
En équipe de France,
il a un gabarit de 10. Il a des appuis numéro 10, une technique de 10. C'est vrai qu'il a tiré par le but. Mais on peut le repositionner en 4-2-3-1 ou dans un 3-4-1-2 comme ça derrière des attaquants. Il est dans sa zone de confort. Le souci, c'est qu'il est pas heureux. Il vient de passer une saison où il a très peu joué. Quand il a joué, il a pas été à son poste. Je parle d'un point de vue footballistique. D'un point de vue humain, on sent que c'est un garçon. Je vais pas dire qu'il est en épisode dépressif, mais enfin, quand vous êtes plus ou moins mis au bord d'un vestiaire. Voilà. Il est pas heureux. Et le souci qui se pose pour lui, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas réellement de visibilité sur ce que va être sa saison à venir. Parce que Coman communique pas des masses. On sait qu'il va rester parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est un gros transfert. Oui, c'est un gros transfert. Va falloir au moins le rentabiliser une année de plus, le faire jouer. Mais jouer où? Jouer comment? Si Depay arrive.
Coman a quand même dit que ça sera un autre chapitre. Il avait compris que Griezmann n'était pas un ailier gauche et que.
Ah oui, mais ça, à peu près tout.
J'ai compris son positionnement.
Je pense que Sétienne et Valverde l'avaient compris aussi.
On en parlera à un autre moment de ce Barça et de Griezmann. Nabil Djellit, est-ce que vous trouvez que finalement le match d'hier, ça reflète en fait le Griezmann de Barcelone de ce moment?
C'est un joueur lambda. Là, il est. Non, mais je suis c'est un peu dur, c'est un peu con.
Lambda sonne, c'est ça?
Non, mais il sublime pas son équipe. C'est vrai qu'il est au cœur du jeu. Mais il n'accélère plus le jeu par sa qualité de passe. Alors il décroche, il vient chercher le ballon de temps en temps. Maintenant, le joueur que vous regardez en équipe de France, c'est Mbappé, parce que vous savez qu'il va faire la différence et que l'éclair peut surgir à n'importe quel moment. Hier, vous mettez Fekir ou Aouar, je suis persuadé que ça peut être meilleur intrinsèquement et individuellement et sur ce que ça peut produire.
Peut-être plus libéré aussi. Ouais. Je sais pas. Il a quelque chose aussi.
Non, il est pas bien. Ça se sent. Voilà. Je veux dire, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, quand il rate son pénalty.
Alors, on y vient au pénalty. Voilà. Attendez une seconde. Parce que justement, il rate ce pénalty. Ça peut être le second but des Français. C'est la dernière seconde du match. Et voilà ce qui se passe.
Antoine Griezmann pour un 31e but.
Pour l'équipe de France, ça ne sera pas terminé là-dessus. Ça termine au-dessus de la transversale. Mais l'équipe de France s'impose malgré tout en 1-0.
Maestro Salerno est en plus un disciple des Simpsons, donc.
Ah oui, j'aime bien aussi.
C'est pour ça que vous avez ce nom.
Jolis effets spéciaux.
Par rapport à nos confrères de M6 qui commentaient le match. Je vais d'abord demander à Antoine. Antoine, il a marqué ce pénalty, mais surtout c'est le troisième consécutif avec les Bleus. D'ailleurs, avant de faire parler Antoine, écoutons Didier Deschamps, parce que vous nous l'avez dit tout à l'heure, Antoine Grenier, hein, Didier Deschamps, il a renouvelé sa confiance par rapport au pénalty à son joueur Antoine Griezmann.
Il le sait qu'il a raté le pénalty, comme les deux précédents. Il en a pu tirer pendant un bon moment aussi, donc il faut qu'il se réhabitue. Mais à partir du moment où il se sent, et s'il y en a un autre, je le laisserai le frapper, bien évidemment.
Antoine Griezmann rate donc son pénalty. Antoine Grenier, vous n'avez pas raté le vôtre, mais est-ce que vous défendez le fait que, comme Didier Deschamps, que c'est lui qui doit continuer à les tirer?
Mais il y a clairement une crise de conscience, de confiance, ou peut-être de conscience, peut-être du conscience. Il y aura peut-être une
la
crise de conscience
surtout.
Du côté de Didier Deschamps qu'il faut changer quelque chose.
Ouais.
Non, c'est le geste d'un joueur qui n'est pas bien dans sa tête ce penalty, parce que il le frappe pas du tout comme il frappait les penalties lors de la Coupe du Monde et il les avait tous réussis. Là, il le met largement au-dessus parce qu'il veut le frapper fort. Et c'est pas du tout comme ça qu'il aurait dû aborder ce penalty en fin de rencontre, alors qu'il y a la fatigue, alors qu'il y a la pression qui a pesé pendant 90 minutes. Et avec les deux précédents en Andorre et en Albanie, où à chaque fois il rate son penalty, peut-être que il a voulu se relancer, peut-être qu'il le sentait sur le moment, c'est possible. En tout cas, personne ne lui a disputé ce penalty, c'est-à-dire que le tireur de penalty attitré de l'équipe l'équipe de France. C'est Antoine Griezmann et tout le monde l'a respecté sur le moment. Après, ce qui est clair, et ça s'est vu, c'est que si Griezmann avait marqué son penalty, les joueurs de l'équipe de France auraient peut-être plus fêté cette victoire en terre suédoise, la première depuis 12 ans. Là, le ballon s'est envolé, a atterri dans les tribunes, l'arbitre a sifflé juste après la fin de la rencontre, donc ils ont même pas eu le temps de respirer, les Français, et tout le monde est sorti un peu la tête basse, un peu abasourdi, quoi.
Nabil, est-ce que on peut imaginer, alors, à contrario, si évidemment Deschamps est pour nous vis-à-vis de la presse et de l'extérieur dit je maintiens ma confiance, est-ce qu'on peut imaginer que Griezmann laisse le ballon?
Oui. Bah, il peut se mettre de côté, laisser passer un peu son tour.
Laisser tirer, je sais pas, Giroud, Mbappé, Giroud.
Giroud, surtout, qui court derrière le record de Michel Platini, de rejoindre Michel Platini. Donc, oui. Ce serait en plus bien perçu comme un signe plutôt même de fraternité, de solidarité avec son coéquipier. Moi, je sais que, par exemple, Mahrez, il en avait raté quelques-uns comme ça, notamment un contre Liverpool. En première ligue, la saison où ils ont été champions, donc pas celle-ci, mais celle d'avant, bah, il s'est mis de côté. Il a laissé passer son tour une fois ou deux, et ensuite, bah, il a retiré. C'est aussi l'intelligence, c'est aussi de sentir les coups. Ça sert à rien de forcer.
Par rapport au
groupe,
en plus,
tu te mets de la pression. Voilà. Tu laisses passer ton tour tranquillement. Et puis, je dis n'importe quoi. Vous menez 2-0, il y a un penalty. Tu viens tirer pour le 3-0. C'est-à-dire, il faut aussi choisir le penalty. Peut-être pas à 0-0. Mais quand vous avez un peu de marge, peut-être ça enlève un peu de pression.
Ouais. Patrick, on se souvient qu'il avait déjà eu un mauvais passage tirer des pénalties. On se souvient d'une finale de Ligue des Champions avec l'Atlético. Et puis, il me semble, avec l'équipe de France aussi, déjà.
Déjà
pendant l'Euro, non ?
Il en a raté deux avec l'Atlético.
Avec l'Atlético. Voilà, il arrivait à l'Euro en ayant
C'est pas un tireur fiable et infaillible. Hein. C'est pas Lewandowski, quoi. Hein.
C'est pas Messi, surtout. Au Barça, il peut pas les tirer, puisque Messi en tire.
Bien sûr.
C'est montre quand même de ce qu'on explique depuis tout à l'heure, c'est que le penalty, alors c'est un geste technique, tout ce qu'on veut, mais c'est aussi une histoire de mental, c'est une histoire de nerfs, c'est une histoire de personnalité. Souvent, les grands tireurs de pénaux sont des types avec du caractère et du charisme. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Antoine Griezmann avec toutes les qualités footballistiques qui sont les siennes? C'est de ne pas avoir de caractère, de ne pas avoir de charisme, de ne pas être un vrai leader. Et regardez le nombre d'échecs qu'il a.
C'est comme le leader d'une équipe qui est champion du monde.
Oui, les leaders techniques.
Mentalement, il a quand même répondu présent en Coupe du Monde.
C'est leader technique.
C'est un peu forcer le trait, là.
Non, c'est pas forcer le trait. Tu peux être leader technique sans être un leader de vestiaire, sans avoir beaucoup de caractère.
Naïm, je pense qu'il faut pas tirer de conclusion
définitive. Si moi j'en tire des conclusions définitives. Non, c'est pas une histoire de mauvaise passe. Rappelle-toi l'Atlético quand il tournait très bien.
Pas la carrière
quand il était à l'Atlético, il était très bien, il avait de bonnes performances. Il se fait siffler par son public parce qu'il avait fait sa première histoire. Il pleure sur le terrain. Chaque fois qu'il a dû montrer du caractère, chaque fois qu'il a dû, excusez-moi l'expression, montrer
jeune,
des coronesses, à chaque fois il a craqué. Et regardez ce qui se passe sur les pénalties, c'est quelqu'un qui a très peu de mental, Griezmann. Il a toutes les qualités de footballeur, moi je ne dirais que du bien de son jeu, mais mentalement, il a pas de caractère.
Si t'as pas de caractère, t'es pas le leader offensif de l'équipe de Diego Simeone. Et Diego Simeone, c'est du caractère.
Tu es un leader technique, pas un leader de... Non, il y a une vraie différence.
On ne vous mettra pas d'accord.
Non.
Pour terminer, il y aura donc demain soir un France-Croatie au Stade de France. Alors, mais évidemment, on sera très loin de la confrontation en finale à Moscou. Le coronavirus étant passé par là, des tribunes désertées, là aussi, il y aura un huis clos. Turnover, donc on en parlait tout à l'heure sur les remplacements et les changements. C'est une Croatie. Est-ce que Didier Deschamps vous a semblé craindre cette Croatie qui vient de rentrer du Portugal avec un 4-1, Antoine Grenier ? Une défaite.
Non, alors c'est pas tellement le genre de Didier Deschamps de montrer qu'il a peur d'un adversaire.
Ouais, ça, c'est tactique, effectivement.
D'autant que... Bien sûr, ben en même temps, il y a toujours un petit peu d'intox en veille de match. Faut pas montrer à l'adversaire qu'il est trop fort. Il a surtout abordé la Croatie au plan des bons souvenirs pour lui, parce que il y a cette finale de Coupe du Monde de 2018 en tant qu'entraîneur qu'il a gagné contre la Croatie. Et puis il y a aussi cette demi-finale ici même au Stade de France, 20 ans plus tard, qu'il avait gagné en tant que joueur, difficilement grâce à deux buts de Thuram, mais il était là. Donc il l'a abordé en parlant des souvenirs et en disant d'ailleurs que il ne parlait pas de la demi-finale de 98 aux joueurs parce que ils étaient trop jeunes pour avoir connu ça et que donc ça ne leur apporterait pas grand-chose.
Patrick Juillard, est-ce qu'il doit maintenir le système qu'il a testé pendant le match, ce 3-5-2?
Bah, je pense qu'il faut le faire en changeant peut-être quelques joueurs. Oui, je le retenterai avec un joueur plus apte à l'offensive, Ferland Mendy, déjà titulaire.
Sur le côté
Sur le côté gauche. Sur le côté droit, je ne sais pas s'il y a vraiment la possibilité de faire autrement. Et puis.
Sissoko Moussa, il peut mettre.
Ouais, mais là, c'est pas. Est-ce que c'est vraiment offensif ? Dans le sens, c'est un joueur qui est box-to-box.
Dans un rôle qu'il a déjà.
C'est un système que tu dois mettre en place avec tes titulaires. C'est que tu mettes des joueurs d'appoint, des deuxièmes, des troisièmes choix, c'est bien sur le moment, mais pour le faire vivre et le faire vivre correctement, tu dois le faire avec tes titulaires. Alors, Hernandez à gauche est là, Pavard est pas à la droite. T'as pas Pogba au milieu. Déjà, tu sais que t'as pas l'anglais, enfin, est-ce qu'il va associer l'anglais Varane en charnière centrale, je sais pas, c'est à voir, mais déjà, si t'as pas ton latéral droit titulaire, si t'as pas un de tes milieux de terrain titulaire, c'est difficile de le mettre en place. Est-ce qu'il va le reconduire? Moi, je pense que c'est le gros match, en fait, la Croatie, la Suède,
c'est le gros match, voilà, mais paradoxalement, c'est peut-être pas le plus dur des deux.
Non, c'est peut-être pas le plus dur des deux, mais c'est le gros match. Donc, c'est-à-dire que, normalement, tu devrais retrouver un système plus classique. Il va faire tourner les joueurs parce que c'est normal, mais tu devrais retrouver un système plus classique.
4-3-3.
Ouais, faire deux matchs avec un système expérimental comme ça. Bon,
je pense que la Croatie, bon, si on élargit un peu le sujet, la Croatie, c'est un adversaire moins difficile. Il y a de meilleurs joueurs. C'est une meilleure équipe sans doute que la Suède, mais c'est une équipe qui ferme pas le jeu, qui est plus ambitieuse que la Suède, et donc il y aura sans doute plus d'espace dans le dos des défenseurs. C'est moins rugueux aussi. Donc je pense que ça peut davantage sourire à une équipe qui devrait être un peu plus verticale dans son approche.
Oui. Privé de Rakitic.
Voilà, privé de beaucoup
de très loin
de
l'équipe
de
2018. Hein.
Antoine, vous allez à la rencontre d'ailleurs de Dalic, l'entraîneur, le sélectionneur de la Croatie d'ici peu.
Oui, exactement. La conférence de presse va commencer d'ici à 19h. Bon, on va lui poser des questions sur cette équipe de France. Est-ce qu'elle a des faiblesses? C'est évidemment les souvenirs de 2018, parce que autant on a senti que les Bleus ont perdu du rythme avec le confinement, autant on sent que la Croatie a perdu le fil depuis 2 ans. Et comment le retrouver? Est-ce que l'adversaire idéal pour ça, c'est l'équipe de France? Pas sûr.
Ça montre qu'il y a une différence de réservoir. C'est-à-dire que la Croatie, il suffit qu'il y ait 3 ou 4 cadres absents et l'équipe est très diminuée. La France, malgré tout, même s'il y a tout le monde ne peut pas être au niveau champion du monde dès son premier match, mais il y a un réservoir qui fait qu'on peut pallier quelques absences facilement.
C'était déjà une équipe vieillissante en 2018. C'est une équipe qui arrivait sur la fin de cycle. Contre le Portugal, tu avais 3 joueurs qui ont fait la finale de Coupe du Monde, Rebic, Lovren et Vida. Voilà. Tout le reste, c'était soit pas dans le groupe, soit c'était remplaçant.
Merci beaucoup Antoine Grenier d'avoir été en direct dans Radio Foot International, et bon retour jusqu'à la radio à partir du Stade de France.
Merci Annie, à bientôt.
Merci Antoine. On continue, on va parler un petit peu de la saison qui se prépare en Ligue 1. On va parler du Paris Saint-Germain.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
2 semaines après la finale de la Ligue des Champions, point d'orgue de la saison du Paris Saint-Germain, les dirigeants parisiens préparent donc leur rentrée reportée, puisque les champions de France ne retrouveront la pelouse a priori que le 10 septembre au Stade Bollaert de Lens.
Rien n'est sûr en Ligue 1.
Oui, je sais bien.
Avec la Ligue, rien n'est sûr.
Rien n'est sûr puisqu'ils ont beaucoup de malades en leur sein, on le sait. Mais bon, le premier en tout cas à parler de la saison à venir, c'était annoncé, c'était le directeur sportif du club qui hier soir était avec nos confrères sur Canal+, Leonardo, mais il avait été doublé quand même quelques heures avant par Kylian Mbappé, prolixe en sortie de terrain après son but en bleu.
Plein d'équipes ont perdu une finale et ont gagné l'année d'après. Il faut positiver, faire un bon recrutement, parce que je pense que ça va être important, mais il faut acheter des joueurs. Mais on verra comment ça va se passer. Voilà, il y a des gens qui font leur travail. J'espère qu'on aura des bonnes recrues et on pourra redémarrer la saison avec l'objectif de faire mieux que la saison passée.
Je pense que l'idée, c'est ça. Ouais. On a des postes qu'on a en lice, on a la priorité. Et bon, on pense le faire. On a un mois jusqu'à le 5 octobre pour faire. Mais on doit regarder aussi le côté sortie, parce que c'est obligé.
Nabil Djellit, est-ce que ne pas avoir le même point de vue, ça peut finalement poser problème au sein du PSG ?
Non, j'ai pas l'impression que c'était l'ambiance quand même. Je sens pas de tension particulière.
Une grosse agressivité dans
ses propos. Voilà. Donc après, on lui a posé une question. Mbappé, il a répondu avec une certaine franchise au fond. Vous savez, après, on peut toujours dire.
Mais lui, il est sur le terrain. Ouais. Il a l'impression qu'il manque des gens.
C'est vrai. Il est quelque part pas dans son rôle. C'est le rôle plutôt du directeur sportif ou du club de.
Mais quand une star exprime ses désirs, on a vu Messi, n'est-ce pas?
Voilà. Mais quelque part, vous pouvez aussi être positivé, dire il s'investit, il s'implique dans le club. Il est pas en train de nous dire je reste ou je reste pas, il est en train de vous dire comment on améliore l'équipe pour gagner ensemble. On peut avoir deux lectures, on peut voir le truc d'une manière en se disant pour qui il se prend, lui, il ferait mieux de réussir ses face-à-face que venir nous expliquer qu'il faut acheter des joueurs. Après, la réalité est que, comme vous et comme nous tous ici, on a vu la qualité de l'effectif du Bayern, il a vu lui aussi la qualité de l'effectif du Paris Saint-Germain. Quand tu regardes les remplaçants du Bayern, la moitié peuvent être titulaires au Paris Saint-Germain, il y a un moment, il se dit, si je veux gagner avec le Paris Saint-Germain, il va falloir améliorer certaines choses. Voilà, moi je le lis comme ça.
Je pense qu'il y a deux choses, parce que effectivement, il pense à améliorer l'effectif en faisant des recrutements, donc il fait un appel du pied à son directeur sportif. Mais il y a aussi le fait que cet été, le PSG a vu plusieurs joueurs en fin de contrat quitter le club, et donc même numériquement, il y a plusieurs de ses coéquipiers qui ne sont plus là. Donc il y a à la fois des postes à renforcer, mais aussi des joueurs dont il faut compenser le départ. Thiago Silva qui est en fin de contrat, qui n'est plus là. Cavani, c'est pas anodin. Tout le monde a dit ah oui, il est vieux, c'est pas grave, ils ont Kimpembe, Marquinhos. Pour moi, c'est un problème. Meunier, alors on peut trouver tous les défauts du monde à Meunier. Il se trouve qu'il n'a pas été remplacé et que ça s'est vu. Et enfin, il y a toujours un petit doute. Je pense que c'est peut-être à ça que Mbappé pensait. C'est sur l'attaquant, c'est-à-dire. Mbappé ne veut pas visiblement être l'avant-centre du PSG, il veut plutôt jouer à un poste où il a plus de
liberté,
de profondeur champ devant lui. Est-ce que Icardi et le joueur idoine, est-ce que c'est la bonne pioche absolue pour compenser le départ de Cavani? Il y a encore un doute, je pense.
Allez-y, je vous en prie.
Est-ce que les propos de Leonardo finalement hier soir, est-ce qu'il y avait du nouveau? Est-ce que vous en avez qu'est-ce que vous en avez retenu?
Non.
Sur les objectifs de la saison à venir,
sur
en
les
fait,
objectifs,
c'est ça qu'on attendait.
Mais qu'est-ce qu'il peut dire d'autre qu'on veut retourner en finale de Ligue des Champions, on veut la gagner? D'abord, je suppose que c'est une nécessité,
Ça, oui, mais comment? C'est ça qu'on attend.
Comment, on sait à peu près comment.
Comment jouer au Bayern, non, mais bon.
Comment, on sait très bien, c'est-à-dire en fidélisant les Neymar et Mbappé qui sont les deux stars de l'équipe, en blindant ceux dont on a besoin, c'est-à-dire Marquinhos, c'est-à-dire Paredes, c'est-à-dire Verratti, Di Maria, ce genre de joueurs, et en recrutant. Alors derrière, Patrick disait il manque un défenseur central, moi je pense surtout qu'il manque un milieu créatif. Si vous regardez aujourd'hui les milieux de terrain du PSG qui sont très bons dans leur registre, hein, que ce soit Gueye, que ce soit Paredes, que ce soit Herrera, que ce soit Verratti, vous avez pas ce qu'on pourrait appeler un 10 comme on parlait tout à l'heure de Griezmann ou de Modric. Vous
Verratti,
avez pas de 10,
peu, ouais.
Verratti Neymar, c'est pas un 10, Verratti c'est un 8. Non, Neymar c'est pas un 10, c'est un joueur qu'il faut mettre sur le côté parce qu'il est trop rapide pour être dans l'axe avec peu de liberté de mouvement.
Naïm, je suis d'accord.
Ah bah si vous êtes d'accord, tout va bien.
Une vision puriste du 10, Neymar est pas un 10 comme d'ailleurs Griezmann n'en est pas un selon moi, mais en revanche, on peut très bien remplacer un 10 par deux joueurs rapides et créatifs sur les côtés.
On peut aussi remplacer un 6 par un milieu. On peut aussi remplacer un 6 par un défenseur central. C'est pas pour autant,
non,
même s'il est bon, qu'il sera numéro 6.
Et puis aujourd'hui, on joue plus vraiment avec un numéro 10.
Aujourd'hui, ce qui manque à Paris, c'est
un latéral
milieu
droit,
de terrain.
Surtout.
Au-delà des défenseurs, c'est un vrai milieu de terrain créatif qui n'est jamais arrivé au PSG finalement.
Mais donc finalement, Leonardo hier, il a pas annoncé grand chose.
Non, mais hier c'était Pinocchio. Je veux dire.
Mais
Leonardo, il est un peu dans ce rôle-là. C'est de la com aussi. Donc.
Après, faut aussi savoir quelle marge de manœuvre tu as, parce que tu sais que tu vas devoir vendre pour au moins 60 millions. Après, quand on dit il faut vendre pour 60 millions, on vend qui? Parce qu'il ne faut pas non plus dépiauter certains postes qui sont quand même un peu ric-rac. Donc d'abord, essayez de voir qui tu peux vendre, combien tu peux récupérer, et avec ce que tu as, qui est sur le marché. Parce que pour acheter, il faut qu'il y ait des joueurs à vendre. Pour qu'il y ait des joueurs à vendre, il faut que les équipes du même niveau que du PSG mettent leurs joueurs à vendre.
Alors,
ce qui n'est pas donné, en fait.
Il y a autre chose. Alors, effectivement, il faut vendre, mais Antero Henrique avait inclus dans pas mal des précédentes transactions de jeunes joueurs vendus lors des 2-3 précédents mercato, des options à la revente, des pourcentages à la revente.
Et tu rachètes qui, du coup?
Non, pas au rachat, à la revente. Hudson Edwards, il est vendu aujourd'hui par le Celtic Glasgow.
Il
le PSG récupérera environ à peu près 20 et 40%, 50 même, du pourcent du transfert, aussi. Ça peut faire 10 ou 15 millions d'un
coup. Ils peuvent récupérer de l'argent sur des pépites qu'ils ont,
voilà.
Qu'ils ont
donc il n'y a pas que des effectifs actuels.
Est-ce que Eric Choupo-Moting a des chances de rester finalement dans l'effectif du Paris Saint-Germain?
Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai lu hier l'équipe. Moi, je savais parce que je connais quelqu'un qui a proposé un attaquant au Qatar. Il voulait mettre Choupo-Moting là-bas et tout, mais là-bas au Qatar, ils ont dit non, Choupo il reste au Paris Saint-Germain. Donc c'est une vraie option. C'est un joueur.
Parce que théoriquement, il était libre.
Avec un profil différent. Alors après, bon, il complète parfaitement l'effectif. À mon sens, moi, je l'aurais pas prolongé parce que je pense que Choupo-Moting, qualitativement, ça reste insuffisant. Même si c'est une belle histoire contre l'Atalanta, il rentre et il marque. Aujourd'hui, quand vous regardez le banc de touche des grands clubs européens, en règle générale, vous avez au moins un deuxième numéro 9 d'un niveau beaucoup plus élevé, quoi. Entre guillemets.
Le problème, c'est que tu sors d'un conflit Cavani-Icardi. Ou qui sera titulaire, machin. Il y en a un qui vaut cher, l'autre qui a les meilleurs buteurs. Et si tu mets l'un sur le côté, t'as acheté pour rien. Et l'autre, si tu le fais jouer, tu manques de respect, machin. Choupo-Moting, lui, il y a pas de problème parce que il se plaint pas d'être remplaçant. Il sait que c'est sa place. Oui, à Paris, en tout cas, il sait que c'est sa place.
Après, le haut niveau, c'est pas du social. Je veux dire, Icardi.
Non, c'est pas du social, mais t'es obligé d'en faire dans un club.
Icardi, il est habitué à la concurrence. Les joueurs de foot de très haut niveau savent très bien que sur le banc, il y a un joueur qui peut être quasiment aussi fort qu'eux. Benzema, il a toujours fait avec la concurrence. Icardi, il est dans un grand club. Oui, mais s'il accepte pas la concurrence, il faut qu'il signe ailleurs.
Icardi, il a jamais connu la concurrence. Icardi, à l'Inter, il faisait ce qu'il voulait.
Il a signé au PSG. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, t'es obligé d'avoir
Et tu découvres la concurrence à 26 ans.
Je pense que dans l'immédiat, Icardi, le plus important pour lui, c'est de faire du fitness et de retrouver son poids de forme. La concurrence, il pourra l'affronter. Mais dans cet état-là, ça va être plus dur.
En tout cas, ce qu'on a retenu, c'est qu'il aime pas trop que les joueurs racontent leur vie sur les réseaux sociaux.
Un truc très drôle sur Instagram. Il a dit c'est une arnaque parce que on croit que vous êtes dans un château alors que vous êtes dans votre cuisine.
Par contre, il a quand même dit quelque chose de très important pour moi. Il est revenu notamment sur le couac de la Ligue d'avoir fait démarrer la saison le même week-end de la Ligue des Champions. Je trouve que c'est très bien d'avoir aussi l'avis et le ressenti du directeur sportif du PSG, parce qu'avec le fameux match reporté contre Lens, tout le monde leur a tapé dessus. Ouais, c'est le PSG, fait ce qu'il veut, c'est n'importe quoi. Ce qui est absolument pas vrai. Ça, je l'avais dit ce jour même, tout le monde m'est tombé dessus. C'est absolument pas vrai, ça s'est pas passé comme ça. Donc c'est bien aussi que le directeur sportif du PSG vienne parler là-dessus et remette la Ligue à sa place. C'est-à-dire qu'il sorte un peu du cadre de directeur sportif du PSG et qu'il donne aussi son avis en tant que dirigeant de football, d'ancien joueur, sur le foot en général. C'est pas mal. Juninho le fait des fois avec Lyon, mais là, c'est bien que Leonardo
l'ait fait. Je me souviens qu'on en avait parlé, effectivement, de cette Ligue 1 qui commençait déjà avant tout le monde, mais en plus, au moment où il y avait la Ligue des Champions.
Puisqu'elle s'était arrêtée plus tôt, mais elle aurait dû commencer encore plus tôt.
Ouais. On continue et on termine avec un genre de fait divers, on va dire, du côté de l'Égypte.
Les pharaons étaient trop forts. C'est le troisième titre continental consécutif pour l'Égypte.
C'est le plus grand des vols.
Une bonne partie des trophées avait été volée sans pour autant préciser si cela concernait celui de la Coupe d'Afrique des Nations 2010, même si c'était fort probable.
Il s'empare de vos valeurs. Sans vous menacer d'une âme.
Qui a donc volé le trophée des Égyptiens? Le palmarès des pharaons est unique pourtant. L'équipe nationale d'Égypte est la plus titrée du continent africain. 7 titres entre 1957 et 2010. Ces joueurs ont donc soulevé le trophée doré 7 fois. Le trophée des champions d'Afrique. Mais voilà que l'une des coupes symbolisant ces victoires a disparu du siège de la fédération au Caire, alors que les dirigeants actuels, alors on le sait, il n'y a plus de direction depuis un an, c'est un comité de normalisation. Ils avaient l'idée de dresser un musée, de mettre les trophées en vitrine. Et bizarrement, il n'y a plus le trophée de 2010. En tout cas, c'est ce qu'a raconté un journaliste à la télévision égyptienne jeudi dernier.
Ils ont demandé, les gars, où se trouve le trophée 2010? On leur a dit, et là-bas, jusqu'à ce que quelqu'un leur dise que ce trophée se trouve chez l'ancien capitaine Ahmed Hassan. Qui? Ahmed Hassan. Ils ont alors demandé à Ahmed Hassan, qui leur a répondu en rigolant, j'ai quoi à y voir dans cette histoire? Finalement, à force de chercher en vain, ils se sont rendus compte que ce trophée de la CAN 2010 est introuvable. Un trophée que l'Égypte devait précieusement conserver et qui désormais est introuvable. Ah, je vous le jure, mais ce n'est pas une blague.
Alors, Ahmed Hassan, c'était évidemment le capitaine emblématique, hein, d'une équipe qui avait gagné trois fois successivement la CAN. On leur avait donné l'original parce qu'ils avaient gagné trois fois, un peu comme, et on y viendra, le trophée Jules Rimet, exactement, décidément, hein, ça porte pas bonheur. Il a dit... peut-être disparu lors du pillage du siège en 2013. Voilà. Ce qui est étrange, c'est que ça, on le dit maintenant.
Oui, ça, j'avoue que
ils n'avaient peut-être
peu
pas cherché le
ils
trophée.
Ils ont dit que d'autres trophées pour d'autres compétitions ont été volés, visiblement,
autre
au même endroit.
Une canne.
Mais sans insister beaucoup sur la nature des trophées. C'est pas très clair. Ce qui est très curieux, c'est qu'effectivement, si tant est que ça soit produit en 2013, ils ne s'en aperçoivent que 7 ans après. Alors, il faut savoir que
les travaux sont
en cours au siège de la fédération. Et c'est peut-être à cette occasion qu'ils ont découvert la disparition du trophée. Là, moi, j'avoue que au début, j'ai cru que c'était une blague quand j'ai commencé à lire les dépêches là-dessus.
Quand notre correspondant nous a dit ça, Frédéric Quena en Égypte, on a tout de suite quand même dit que se passe-t-il.
Je trouve ça complètement surréaliste que un tel trophée soit pas vraiment protégé de manière. En plus, l'Égypte, c'est un pays très sécurisé, très. C'est pas un pays où on rentre partout comme dans un moulin. Donc, c'est bizarre.
Ça n'a rien à voir. Bah, on oublie un truc, c'est que ces trophées-là ont une valeur financière et puis qu'il y a des gens qui les volent pour les revendre. Et ça arrive dans beaucoup de fédérations.
Ça se revend sûrement pas sur eBay. C'est pas.
Non,
c'est
ça se revend pas sur eBay, mais vous savez, le marché noir, ça existe, Annie, hein, partout. Ouais, et,
les animaux, notamment.
Il y a beaucoup de fédérations. Il y a beaucoup de fédérations qui se font voler des trophées. Vous vous rappelez pas, il y a quelques temps, la France s'était fait voler les Coupes des Confédérations au siège de la Fédé. Il y a pas longtemps, il y a quoi, 3-4 ans à peu près. Donc ça arrive régulièrement. Alors ils vont diligenter une enquête, sauf que bon, à mon avis, le truc est déjà loin et puis c'est peut-être même déjà revendu et peut-être même déjà qu'il a quitté l'Égypte.
Peut-être même qu'il a été fondu.
Donc ouais, pourquoi pas. Donc oui, c'est un fait divers, c'est curieux. Bon, c'est
triste, non, Nabil, parce que par rapport aux joueurs, non, le respect par rapport aux joueurs qui
se
décarcassent pour remporter un trophée.
Le symbole. Après, en 2013, ceux qui pillent la Fédé, c'est les ultras, non?
Ça leur avait été attribué, mais apparemment c'est pas clair. Et c'était au moment en fait de la chute de Mossi. C'est ça. Hein,
ça se trouve ceux qui ont volé, si ça en vole, ça se trouve ils sont tombés dessus, ils savaient même pas ce que c'était. Non mais je veux dire, à un moment quand vous pillez, ça part dans tous les sens. Non mais je veux dire, ils rentrent dans une salle, ils attrapent, et puis après ils comprennent ce qu'ils ont. Ça peut être aussi quelque chose qui peut être complètement ubuesque.
Peut-être que ça pourra reparaître donc.
Ça m'étonnerait, mais on verra quoi.
C'est rare.
En 1966, le fameux trophée Jules Rimet, la Coupe du Monde qui a précédé celle qui est toute ronde maintenant et qui était un trophée, en fait la déesse du sport Nike.
Qui était magnifique d'ailleurs.
Voilà, il avait été d'abord, c'est amusant, en mars 1966, exposé dans Londres, dans le Central Hall de Westminster, en face de l'abbaye, dans une église méthodiste. Il avait été volé. Là, il y a quelqu'un qui a voulu rançonner, Scotland Yard était sur les traces et tout. Finalement, ils l'ont pas du tout retrouvé là parce que le type voulait se faire de l'argent facilement. Et il l'avait retrouvé après planqué dans un buisson. Quelqu'un avait dû s'en débarrasser. Et c'est un chien qui s'appelle Pickles, resté dans l'histoire.
C'est génial.
qui avait retrouvé ce trophée avant la Coupe du Monde.
Bravo.
Ensuite, cette même Coupe du Monde, en 1970, elle est donnée définitivement au Brésil parce qu'ils l'ont remportée trois fois. Elle est volée en 1983. Alors, c'était des voleurs brésiliens, mais le mandataire, apparemment, le commanditaire était un Argentin. ça a jeté de l'huile sur le feu entre les deux pays à l'époque. Et en fait, après, ils ont avoué qu'elle avait été fondue, vraisemblablement. Alors, il reste qu'une véritable copie. C'est celle qu'ils avaient faite justement en 1966, quand on s'est dit, il n'y en aura pas pour la compétition, le temps qu'ils la retrouvent. Et il y avait un orfèvre qui avait fait une copie en or massif, véritable.
C'est des
un classique, c'est ça?
Oui. C'est un classique, c'est des œuvres d'art. C'est comme il y en a qui sont spécialisés pour piquer des tableaux, on pique des trophées de football.
Ouais,
alors.
Qui sont ensuite mis dans des maisons
mais
particulières,
évidemment,
on les retrouve jamais.
Ça a une valeur financière inestimable. Pour la CAN peut-être pas, mais la Coupe du Monde, la Coupe Jules Rimet, vous vous rendez pas compte ce que ça peut coûter. Donc non, il y a des spécialistes de ça. Dans le banditisme, non, moi ça me choque. Oui, parce que c'est pas bien d'aller piquer un trophée comme ça, c'est n'importe quoi. Mais ça me choque. Sur la nature de l'objet volé, ça me choque.
En fait,
pas.
Moi ce qui m'étonne, c'est que ce trophée était à la portée du public, alors que ouais. normalement, dans ces cas-là, bon, là, les fédérations exposent une, une réplique.
Effectivement.
Et le trophée, le vrai trophée, est gardé en lieu sûr, sous clé, et on ne peut pas y accéder.
Oui. Après, t'as peut-être une complicité
intérieure. La Coupe du Monde actuelle, d'ailleurs, qui est vraiment en or massif et en émeraude.
Elle n'est pas exposée,
Elle n'est pas exposée, celle, par exemple, qui a la Fédération française de football. Ce n'est qu'une copie, évidemment, une réplique. Et elle est remise en jeu depuis 1974. On n'attribue plus. Alors, la Confédération africaine de football a donc tweeté en disant qu'elle allait se mettre à la disposition de l'Égypte.
Elle est sur place, puisque son siège est au Caire.
Exactement, pour l'aider à remettre la main sur ce trophée ou ces trophées. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Et on vous dit donc à demain pour parler de Messi et d'autres sujets.